Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Réveil culturel, en direct à la radio le matin ou en podcast quand vous voulez. Tous les mercredis, c'est l'actu ciné et ce mercredi 18 septembre est riche en sorties de films. C'est aujourd'hui qu'on peut découvrir donc au cinéma, entre autres films, celui de Céline Sciamma, Portrait de la jeune fille en feu, et les derniers James Gray et Woody Allen. Michel Simon de la revue Positif viendra en deuxième partie de l'émission pour nous dire le plus grand bien des deux films américains. Ad Astra donc de James Gray et Un jour de pluie à New York de Woody Allen. Mais il y a un autre film qui sort aujourd'hui et qu'on vous recommande, une pépite, une étrangeté, un vieux film réalisé en 1962 à Cuba par Armand Gatti et qui n'a jamais été distribué en salle pour cause de brouille entre les producteurs cubains et français. El Otro Cristobal est un parfait OVNI, objet filmé non identifié, et pour nous en parler ce matin, j'ai invité l'historien de cinéma Antoine Debecq.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Alors Cuba, évidemment, l'aventure était merveilleuse, parce que alors j'ai pu délivrer tout mon soul en toute liberté. Le même film avait été tourné en France, nous aurions enfin 10 fois ou 100 fois moins souffert. Mais ça ne fait rien, tout cela s'ajoutait. Et en même temps, ce qu'il y a eu, c'est quand même la possibilité de faire un film, disons, délirant, enfin un film poétique, enfin, mais en toute liberté, sans que personne vienne rien vous dire, et construire vraiment ce qu'on voulait construire.
Bonjour Antoine Debecq.
Bonjour.
Vous venez d'entendre Armand Gatti parlant de ce film, El Otro Cristobal, qu'on va pouvoir enfin découvrir.
Absolument, c'est vrai que c'est une pépite qui nous vient comme ça des années 60, d'un moment de révolution, d'un moment de poésie, un moment aussi où Armand Gatti, avec d'autres cinéastes, s'est engagé pour Cuba. Il y a eu un grand mouvement à ce moment-là, au début des années 60, et qui durera jusqu'à la fin des années 60, d'engagement d'un certain nombre d'artistes et notamment de cinéastes par solidarité avec la toute nouvelle révolution. Par intérêt pour cette expérience, pour Fidel Castro, ont été à Cuba. Alors ils ont été là-bas très bien accueillis par un institut qui vient... L'une des premières décisions que prend le régime castriste quand il s'installe en matière culturelle, c'est de créer un institut du cinéma qui s'appelle l'ICAIC, et institut du cinéma cubain, et qui va, avec à sa tête un très proche des deux frères Castro, hein, de Raúl et Fidel Castro, qui s'appelle Alfredo Guevara, qui n'a rien à voir avec Che Guevara, décide de lancer des invitations à tout ce qui se fait de plus nouveau, de plus, je dirais, presque révolutionnaire en matière cinématographique. Et alors, vont venir à Cuba, bah en France par exemple, Chris Marker, Agnès Varda, Joris Stevens, Carmen, le grand cinéaste soviétique Mikhail Kalatozov, qui a eu la Palme d'Or quelques années plus tôt. On parle même d'inviter Stanley Kubrick, le jeune Kubrick, le jeune Cassavetes. Enfin bon, voilà, et ce mouvement va inclure Armand Gatti, qui va être un des fers de lance et qui va créer ce qu'il appelle, c'est un mot qui est chargé d'histoire et qui est aussi un mot très très beau, hein, les brigades internationales du cinéma, pour venir travailler à Cuba dans des conditions évidemment très difficiles, hein, assez précaires, mais pour faire à la fois acte d'engagement et aussi... à travers cet engagement politique, faire un acte d'engagement esthétique, hein, essayer de transformer, de changer, de révolutionner le cinéma.
Et bien là, en l'occurrence, quand on voit ce film, El Otro Cristobal, Antoine Debecq, ce qu'on retient, c'est le côté délirant de l'histoire. On n'est même pas certain d'avoir tout compris film.
Je crois que personne n'a compris ce film. Ça a posé d'ailleurs quelques petits problèmes quand il a été montré. Mais c'est la force du film aussi, c'est-à-dire cette sorte de... Moi, je dirais presque de fable, de merveilleux. Alors, on comprend qu'il y a un révolutionnaire qui s'appelle Cristobal, qui est joué par Jean Bouise, cet acteur français, lui aussi très engagé, qui est très proche d'Armand Gatti. Bouise avait dit « Je viens si on peut me nourrir presque un jour sur deux ». Voilà, c'est vraiment un engagement. Il n'est pas question de contrat, d'argent. Hein, c'est vraiment l'engagement politique qui mène le jeu. Mais c'est vrai que Gatti en profite. Il est dans un contexte où il est à la fois là pour faire de la politique, mais en même temps où il est laissé totalement tranquille, totalement libre de ce qu'il veut faire. Et c'est vrai que les recherches de Gatti à ce moment-là vont beaucoup puiser vers le merveilleux, la fable. Et ce qu'il trouve à Cuba, c'est quelque chose de très profond qui vient d'Afrique, hein, beaucoup, qui passe aussi beaucoup par la musique, par les rythmes, par... des essais. Alors le chef caméra de Gatti qui s'appelle Jean Charvin va lui proposer de faire des plans totalement inclinés. C'est une histoire qui mêle la terre et le ciel, l'histoire, puisqu'il est question d'une révolution. Donc on a ce Cristobal est une sorte de double de Fidel Castro, mais les enjeux sont véritablement, je dirais, cosmiques. C'est-à-dire que ce qu'il est question de renverser et de révolutionner, c'est pas seulement un pays comme Cuba, c'est, on peut dire, la terre et le ciel, c'est, il est même question, il y a Dieu est joué par le barman du Habana Club, voilà, il y a là quelque chose qui est une sorte de délire un peu surréaliste, hein, qui va saisir le cinéma, et donc il y a un projet qui est de, à la fois politique et aussi esthétique. On peut dire que il s'agit de faire politiquement du cinéma onirique, par exemple.
Han escuchado ustedes al contralmirante del espacio, padre de la patria nueva.
Debemos todos marchar sobre la cabina.
Requerido en Europa por asuntos de Estado y de salud, no es el almirantísimo Anastasio, sino el país entero.
Pendant que dans son ancien palais présidentiel s'ouvrait la réunion des États amis, l'amiral avançait vers la première sphère du ciel que contrôlait Ogun Saint-Pierre.
Compañero, vamos a hacer de Tecumán un territorio libre del cielo y de sus dependencias.
Et ce film d'Armand Gatti, dans quel autre Cristobal, Antoine Debecq, a été tourné en 1962 à Cuba, c'est-à-dire en pleine crise des fusées, alors que l'île était sous embargo.
Oui, c'était des conditions, tous les témoignages concordent, hein, très précaires. Il y avait l'embargo américain qui était déjà là sur l'île. Et en plus, donc tournage commence en septembre 62. En octobre, c'est la crise des missiles. Hein, on est sur l'endroit le plus chaud de la guerre froide. La planète est au bord de l'implosion. Film se tourne et il est lui-même aussi au bord de l'implosion permanente. Hein, et en même temps, il se nourrit constamment de cette sorte de pauvreté technique, où il faut inventer, puisque voilà, on n'a pas les caméras magnifiques, on n'a pas de quoi faire un montage qui soit absolument parfait. Ben avec ce qu'on a, ben on va bricoler, on va réinventer. Et c'est vrai que le tournage du coup prend assez longtemps, hein, il s'étale sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il va fabriquer au fur et à mesure par les improvisations de Gatti, aussi par le sens de la collaboration. Gatti est très bien entouré par des techniciens français et il est là aussi pour former des jeunes techniciens cubains, et il va y avoir une ambiance sur le tournage très solidaire de formation permanente, qui fait que le décorateur qui s'appelle Hubert Monloup propose un décor qui est très impressionnant d'ailleurs, hein,
et très beau,
très beau, très théâtral aussi, ça fait partie du travail de Gatti. Hein, Gatti, à l'époque, est connu comme un grand journaliste et grand dramaturge. Il a été monté par Jean Villard et cinéaste aussi. Il a fait un film qui a été primé au Festival de Cannes 1961 qui s'appelle L'Enclos. Donc Gatti arrive avec tout ce savoir, ce savoir-faire, et en même temps l'idée de laisser tout ça de côté pour vraiment essayer de fabriquer une forme nouvelle. Il y a le scénario est en partie écrit par Eduardo Manette, qui sera lui aussi très connu ensuite comme un grand écrivain d'origine cubaine hein, quand il arrivera en France. Donc voilà, il y a toute une équipe qui est au travail et qui est très bien secondée par. Ça a été un moment assez fondateur pour un cinéma qui essayait de se mettre en place à Cuba. Pour former tous les jeunes techniciens, tous les jeunes acteurs qui sont là. Il y a beaucoup de...
Et que dit l'historien en voyant ce film aujourd'hui, ce film tourné en 62, qui sort aujourd'hui même, El Otro Cristobal? Parce qu'on a du mal à le restituer dans son contexte politique. Des fois, on ne sait pas si c'est au deuxième ou troisième, quatrième degré qu'il faut prendre cette comédie, parce qu'il y a un petit côté Tintin en Amérique du Sud dans ce film.
Oui, bien sûr. Il y a aussi cet aspect film d'aventure, comme ça, qui est l'historien, il y voit le témoignage de quelque chose qui est à la fois très touchant et qui évidemment aussi avec le temps nous paraît finalement une sorte d'aveuglement par rapport au régime castriste, c'est-à-dire que c'est sûr que voilà, on est dans les premiers moments d'une révolution où on croit que ce qui se passe là c'est quelque chose qui va changer le monde hein. Et donc et Gatti il est dans cette croyance là et il veut changer le monde en changeant le cinéma, et c'est quand même quelque chose qui est très très beau. Il y a cette sorte de volonté d'acte comme ça, de création absolue. Alors voilà, c'est quand même ça que moi j'en retiens en tant qu'historien du cinéma, le témoignage d'un moment où tout d'un coup on a l'impression que tout est possible,
l'utopie donc. Le film donc d'Armand Gatti sort aujourd'hui, El Otro Cristobal, Antoine Debecq. Ce film a été oublié, surtout parce qu'il y a eu une dispute entre les producteurs.
Hein. Absolument.
Alors c'est quoi l'histoire du film?
C'est une petite histoire, mais qui a des conséquences importantes. Le film est montré quand même au Festival de Cannes. Hein. Il représente Cuba officiellement en 1963. La projection se passe plutôt bien. Bon, les autorités cubaines sont un petit peu dubitatives devant un film comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce film? Alors, il sort à Cuba. Il a une carrière à Cuba. Qui est-ce qu'elle est? Mais par contre, il sortira jamais en France ni en Europe, parce que effectivement, il y a une brouille entre le producteur du film qui s'appelle Adam Ulrich, qui n'est pas mentionné dans le générique, et voilà, qui va se retourner contre le film et empêcher toute exploitation du film. Donc le film va être perdu assez rapidement. On en connaîtra comme ça des témoignages, comme une expérience, et il va être retrouvé. Alors il faut leur rendre hommage grâce à un chercheur qui s'appelle Sylvain Dreyer, qui va s'intéresser à tout ce cinéma et à tout cet art révolutionnaire des années 60, et qui va à Cuba après un patient travail de recherche et de forcer un peu des portes, etc., retrouver le négatif original du film, qui va permettre de repartir de cet original pour refaire une copie qui est la copie actuelle, une copie restaurée numériquement. On en avait des traces, au sens où il existait une version qui a même été exploitée en vidéo dans les années 80, mais voilà, on a retrouvé grâce à ce chercheur un film qui à la fois fait son temps et en même temps nous arrive comme une sorte de film absolument neuf.
Voilà. Ne serait-ce que pour découvrir Jean Buis dans le rôle d'un espèce de Fidel Castro malgré lui, c'est très très drôle. El Otro Cristobal donc sort enfin en salle, puisqu'on est en septembre et qu'on parlait des grands événements de la rentrée cinéma. Il y a un autre événement qu'on attend avec beaucoup d'impatience, Antoine Debecq, et vous êtes à l'origine de cet événement. Ça se passera en novembre et vous allez organiser cette cette première édition du Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu en 1939 pour des raisons qu'on devine.
Se trouve que donc en 1939, Jean Zay, qui est ministre de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, décide de créer un festival qui soit un peu le concurrent de la Mostra de Venise, qui est le grand festival de l'époque et qui est sous domination fasciste et même nazie, puisque Goebbels a imposé le palmarès, a imposé Leni Riefenstahl en 1938 comme grand prix.
Donc la riposte, c'est le Festival de Cannes.
Voilà, le Festival de Cannes va se créer en 1939. Il est prêt, la sélection est là, les vedettes sont arrivées, le règlement, le jury. Et puis, 1er septembre 1939, quand le festival doit commencer, les armées allemandes entrent en Pologne, c'est la guerre, on annule tout. Notre idée, c'est pour à la fois rendre hommage à Jean Zay, voilà, qui a cette idée assez visionnaire d'un grand festival des nations libres, et puis pour retrouver quelque chose de la création d'un festival. C'est toujours beau, hein, les premières comme ça. Ça a été de réunir tous les films, en fait, de montrer les 30 films. Pour la première fois, on va pouvoir voir l'ensemble des 30 films qui étaient en sélection officielle en 1939.
70 ans d'écart, donc.
À 80 déjà. Et donc, ça a lieu effectivement à Orléans, qui était la ville de Jean Zay. Jean Zay était député d'Orléans du 12 au 17 novembre. Et on pourra voir ces 30 films qui seront à chaque fois accompagnés d'une présentation.
Il n'y aura pas de jury quand même, non?
Ah si, il y a un jury, oui, évidemment, qui est présidé par Amos Gitaï. Oui, un jury qui décernera. Alors, une palme d'or, ça aurait été à la fois un peu anachronique, parce qu'en 1939, il n'y avait pas de palme d'or, et puis la palme d'or appartient au Festival de Cannes, on lui laisse. Non, un grand prix, le Grand Prix Jean Zay, et puis tous les prix qui vont avec un festival comme le Festival
Même
de
si
Cannes.
On ne critique pas, on n'analyse pas, on n'évalue pas un film qui vient de sortir de la même manière qu'un film qui a déjà 80 ans.
Ben, notre idée, c'est quand même de placer, par exemple, les critiques qui viendront. Voilà, il y a le nouveau film d'Hitchcock qui vient de sortir, qui vient d'être montré au Festival de Cannes, qui s'appelle La Taverne de la Jamaïque. Et ben, on va demander aux critiques de réagir comme les critiques cette année ont réagi au nouveau film de Quentin Tarantino. C'est pareil, hein, d'une certaine manière. Et alors, bien sûr, il y a un certain nombre de films qui ont été couronné par l'histoire, hein. Là, le Mr. Smith au Sénat de Capra, Alexandre Nevsky de Eisenstein, même le Magicien d'Oz, ou alors Elle et lui de Léo Macaré. Enfin, il y a toute une série de chefs-d'œuvre comme ça qui ont été programmés en 1939 au Festival de Cannes. L'idée, c'est vraiment de se retrouver avec la conscience de l'histoire, évidemment, et puis d'une histoire particulièrement lourde, devant ces films comme si c'était la première fois qu'on les voyait.
On ira à Orléans. Les dates, vous les avez, Antoine Debecq ?
12 au 17 novembre.
Merci Antoine Debecq de se passer ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Cinéma tous les mercredis dans le Réveil culturel, et en ce 18 septembre, en plus d'El Otro Cristobal d'Armangati, qui sort, donc c'est un film de 1963, mais qui sort là, c'est un inédit, il y a deux nouveaux films à ne pas manquer, deux films américains, le James Gray, Ad Astra, et le dernier, Woody Allen, Un jour de pluie à New York. Pour nous en parler, Michel Simon, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison. Commençons par le James Gray. Vous avez tout vu à Venise, hein, donc allez.
Oui, j'ai tout vu, et puis j'ai vu tous les films de James Gray. Je veux dire, c'est un des cinéastes les plus passionnants de la nouvelle génération. Enfin, déjà, il commence à avoir de la bouteille. Ça fait 5 ou 6 films qu'il a réalisés.
Sauf que là, on le trouve dans un autre registre, dans un autre genre de film.
Il change de registre à chaque fois. Ça fait partie de ces cinéastes comme Paul Thomas Anderson ou d'autres qui renouvellent le cinéma américain en s'attaquant à des genres et en les abordant de façon nouvelle.
Alors, ce Ad Astra, qu'est-ce qu'il raconte?
Alors, Ad Astra, c'est intéressant parce qu'il y avait plusieurs films à Venise sur ce thème de la filiation. C'est un fils qui part en cosmonaute dans la galaxie à la recherche de son père qui a été un grand cosmonaute et qui a disparu dans l'espace et qu'il s'est chargé de retrouver, de rétablir le contact avec lui 10 ans ou 20 ans après son départ. Il ne l'a plus retrouvé. Donc c'est le rapport de la filiation qui est un thème qu'on retrouve dans beaucoup de films de James Gray, qui sont liés évidemment aussi au milieu qu'il décrit, le milieu irlandais, le milieu italien, etc. Dans les films de gangsters en particulier. Mais ici, il s'agit d'un film de science-fiction qui est certainement un des films de science-fiction les plus matures, comme on dit, ou les plus mûrs qu'on ait réalisé, qui est pas seulement un déploiement de techniques éblouissantes, évidemment, mais aussi une sorte d'odyssée de l'espace. Le film a été mieux accueilli que celui de Stanley Kubrick. On se rappelle que la critique avait assassiné 2001. Donc le film a été mal accueilli à Venise, ou pas très, en tout cas controversé, mais c'est néanmoins une date marquante. Il semblerait que la science-fiction ait des problèmes avec la critique. Moi, je défends beaucoup ce film, qui est magnifiquement interprété par Brad Pitt, qui réussit à ne pas être noyé dans les effets spéciaux, mais à imposer un rôle tout à fait anxieux et en même temps de respect pour son père qu'il veut absolument retrouver.
Brad Pitt, mais aussi Tommy Lee Jones et Donald Sutherland dans le dernier film de James Gray, Ad Astra.
Tommy Lee Jones, c'est le père.
Et l'autre film, très attendu du coup, peut-être pas uniquement pour des raisons de cinéma ou des raisons cinéphiliques, c'est le dernier Woody Allen, Un jour de pluie à New York, qui sort aujourd'hui. Puisqu'il vous a accordé une longue interview, passionnante interview, dans le dernier numéro de Positif que vous dirigez, Michel Simon. Que raconte ce film et que pensez-vous du cinéma de Woody Allen?
Bon, écoutez, d'abord, je vais répéter une banalité, c'est le plus grand auteur de comédie vivant au monde. Quand il disparaîtra, il a déjà 83 ans et il est en pleine forme, quand il disparaîtra, on se rend compte que les 50 ou 55 films qu'il avait réalisés, c'est une richesse, d'une variété et d'une invention étonnante. Et d'ailleurs, avec Clint Eastwood, dont on a vu le très beau film La Mule au début d'année, on se rend compte que les octogénaires se portent très bien, surtout s'ils sont comédiens et metteurs en scène. Mais Woody Allen ne joue pas dans ce film. Ce film est un film effectivement assez romantique. C'est un film sur New York. On sait que Woody Allen aime les grandes villes. Il aime Paris, il aime New York, il aime Rome. Il aime faire le shopping, il aime visiter les musées. On n'imagine pas Woody Allen faisant un western, par exemple. Ça paraît dérisoire. Ce qui est très intéressant, c'est la structure du film, c'est ce qu'il explique dans l'entretien qu'il nous a donné, c'est la difficulté de mener deux histoires parallèles, puisque au départ, c'est un couple de jeunes étudiants à l'université, elle part à New York pour faire une interview d'un metteur en scène, de milieu que Woody Allen connaît très bien, et son petit ami lui dit « profitons-en, je me joins à toi, et je vais te faire découvrir New York, parce que moi je suis de New York, elle vient du Texas, ou de l'Arizona, je ne sais plus, enfin d'un pays très lointain à l'ouest. » Et puis, dès le début, ils se séparent, et à elle, il arrive des tas d'aventures, et à lui, il lui arrive aussi des tas d'aventures. Et ce que dit Woody Allen est très juste. Ce qui est très difficile quand on a deux histoires parallèles, c'est de maintenir l'intérêt égal pour les deux histoires, parce que les gens peuvent se dire « Ah non, vite qu'on revienne au premier, c'est plus intéressant que le second. » Et ce qui est brillant dans ce film, grâce aux interprètes, c'est que les deux personnages sont extrêmement passionnants. Tout ce qui leur arrive est fondé sur l'humour, même s'il y a des choses assez critiques sur la haute société new-yorkaise. Woody Allen a gardé son regard très incisif, mais c'est un film merveilleux.
Ce dernier film de Woody Allen qui sort aujourd'hui, Un jour de pluie à New York. Woody Allen donc interviewé dans votre revue de cinéma Positif. Michel Simon, on écoute juste un extrait de cette interview.
Big cities, to me, are the most romantic atmospheres. I love, you know, New York and Paris and London and, you know, big cities. And to me, they're always at their most beautiful in the rain.
Il aime les grandes villes, New York, mais ce qu'il vous dit, Woody Allen, dans cet entretien qu'il vous accorde, à vous, Michel Simon, et à votre collègue Grégory Valence, dans le dernier numéro de Positif, Woody Allen déclare qu'il voulait filmer New York sous la pluie. et qu'il aurait demandé si c'était faisable à Vittorio Storaro, grand chef opérateur, il travaille avec les grands chefs de la photo, Woody Allen, et il lui a demandé si c'était possible, et Vittorio Storaro lui a dit, mais bien sûr, mais à une condition que la pluie n'arrive pas tout de suite au début du film, mais après.
Oui, ça montre deux choses. D'une part que Woody Allen a toujours fait appel au plus grand chef opérateur, Darius Conji, Sven Nykvist, qui était l'opérateur de Bergman, Carlo Di Palma, etc. Et que ces films, au début, étaient pas tellement remarqués par leurs photos et que très vite, il a su s'en tirer des meilleurs. Cette deuxième remarque, c'est, il est à l'écoute, justement, des chefs opérateurs. Cette idée vient de Storaro, il l'a adoptée, et c'est assez rare que les comédies bénéficient d'une très belle photo. Et avec Woody Allen, on se rend compte qu'il reste un grand cinéaste de mots, bien sûr, c'est un dialoguiste formidable, mais aussi un grand visuel.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr et on peut s'abonner au podcast de l'émission en passant par l'application Radio France.
Et on peut aller donc au cinéma aujourd'hui voir El Otro Cristobal d'Armand Gatti, un inédit, un film tourné à Cuba dans les années 60 et qui sort enfin aujourd'hui au cinéma. Et on peut voir les tout derniers films de James Gray et de Woody Allen, vivement recommandé par Michel Simon. Le film de James Gray, c'est Ad Astra, et le film de Woody Allen, c'est Un jour de pluie à New York. Merci Michel d'être passé.
Merci beaucoup.